Je vous salue du Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Seigneur a reposé dans vos bras, et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et
on est de Saint-Joseph. Charpentier, juste. Saint-Joseph, le père adoptif de Jésus. C'est vrai que les évangiles en parlent, mais ils ne parlent pas comment il était choisi. Et celui qui parle de plus comment il était choisi, c'est l'évangile apocryphe de Jacques. Et d'une manière un peu mystérieuse, magique, laissez-moi dire, je ne sais pas qu'est-ce que faisait au temple ce jour-là, mais vous savez, la tradition nous dit que la Vierge était offerte au temple. Et pourquoi? Parce que Joachim et Anne n'avaient pas d'enfants, et Joachim offrait des sacrifices au temple tout le jour, et un jour, un prêtre l'a engueulé d'une manière agressive et triste. Comment tu offres tout cet argent, toutes ces offrandes, toi tu n'as pas de garçon. Là, Joachim n'était pas content du tout, c'est triste. On ne dit jamais à personne, surtout dans le pays, imagine il y a 2000 ans, qu'il n'a pas de garçon. Vraiment, on a beaucoup de familles nombreuses qui ont 7, 8, 9 filles, elles cherchent d'avoir les garçons surtout. C'est très important dans la cité arabe, orientale. Bon, ça change maintenant, heureusement. Heureusement. Et là, Joachim était triste. Il est allé prier Dieu dans le désert au bout de 40 jours. Le chiffre 40 revient. Et que s'il aura un enfant, peu importe qu'il soit fille ou bien garçon, sera offert au temple. Et comme c'était la Vierge qui était née pour cette famille, elle était offerte au temple selon la promesse faite par Joachim. Et comme il n'y a pas la vie célibataire au temple, il faut que cette jeune fille qui a servi le temple pendant quelques années, elle a grandi maintenant, il ne faut pas qu'elle reste l'obstacle du temple, il faut qu'elle soit partie dans la maison de son mari. Il faut choisir un mari. Je ne sais pas comment Joseph était au temple, et celui qui était choisi. C'est dit qu'avec son bateau, bien son stylo, je ne sais pas comment elle a... elle a écrit un verset, je ne sais pas comment, le stylo a fleuri, et c'est comme ça qu'elle était choisie. À vrai dire, je ne connais pas exactement le détail, mais c'est une manière magique. Mais Saint Joseph, c'était qui? De quelle famille il était? Mais David était où? D'accord, à son époque, il était mort, mais où est-ce qu'habitait David? Bethléem, mais qu'est-ce qu'il faisait à Nazareth? Nazareth était encore plus petit que Bethléem. Et est-ce que vous savez que Nazareth n'était jamais mentionné dans l'Ancien Testament? Mais Saint-Joseph venait de Bethléem. J'imagine qu'il a entendu parler de cette occasion de travail de son cousin, cousin lointain, cousin germain, un membre de la famille, un membre du village, chez lui. que le travail se trouve à Sephoris. Sephoris, c'est à 6 km au nord-ouest d'ici et qui était la capitale de la Galilée au temps d'Hérode Antipas, au commencement, avant qu'elle soit Tibériade. Et c'est comme ça que Saint-Joseph quitte Bethléem. Et pour cela, l'Évangile nous dit, après le recensement d'Auguste, elle devait rentrer de Nazareth à Bethléem, s'inscrire dans son village d'origine. Sinon, elle allait s'inscrire ici. Mais comme elle était de Bethléem, elle devait retourner. Dites-moi une phrase que Saint-Joseph a dit dans sa vie. Il n'a rien dit. Bravo. Il n'a rien dit. Elle est le silencieux de l'Évangile. Restez silencieux. Il accepte tout. Et parmi les choses qu'elle a acceptées, c'était le plus dur du tout, surtout dans notre cité, enfermée. Après avoir trouvé Marie enceinte par la puissance du Saint-Esprit, elle l'a acceptée chez lui. Et j'aime bien vous dire, une jeune fille ne peut jamais vivre en couple, ou bien un garçon ne peut jamais vivre en couple avec une jeune fille, ou bien avec un garçon, hors du mariage. Et une jeune fille ne peut jamais avoir des enfants hors du mariage. Il faut qu'elle soit mariée. Sinon, elle risque sa vie. Elle est lapidée par qui? Son frère, son père, son cousin, son oncle. Peut-être, côté chrétien, ça commence à changer, c'est déjà changé, tant mieux. Et à la fin, on reste des hommes et des femmes faibles, laissez-moi dire. Oui. Alors, le cadre de la vie commune, c'est vraiment la famille. Il faut respecter ça. Chez nous, c'est encore respecté en général. Mais on peut avoir une sorte d'accident ou bien de faute. Oui. Et très souvent, on entend parler des jeunes filles tuées. Et quand on cherche, encore aujourd'hui, et quand on cherche, c'est toujours des cas liés aux, comment dire, aux sexualités, exactement. Et pas mal des fois, tellement notre société est cruelle, des fois elle est violée, soit par son frère, par son père, par un cousin, par un voisin. Et la pauvre, c'est elle qui paye le prix. Oui, désolé de le dire, mais c'est la vie chez nous comme ça. Alors Saint-Joseph était vraiment brave d'avoir accepté Marie. Imaginez comment elle était encore plus dure il y a 2000 ans. Et on trouve cela représenté à une des vitres de l'église. Alors, c'est représenté dans un vitre en bas, celui côté droite, ou bien dans l'église selon le tableau droite. Mais qu'est-ce qu'on peut savoir de Saint-Joseph? Il était le fiancé de Marie et le vitre en bas, au centre, derrière l'autel, sera le fiançailles de Saint-Joseph et Marie. Et le vitre à gauche sera la mort de Saint-Joseph. Et comment il était mort? Vous savez, on ne connaît pas vraiment, mais on imagine qu'il était mort dans la main de Jésus et Marie. C'est le troisième vitrail dans la crypte, ou bien le troisième tableau dans l'église. Mes amis, la dernière information, qu'il y aura un tableau qui représente Jésus adolescent à l'atelier de son père, charpentier, mais ici dans la présence de Marie. Et une fois que vous allez descendre dans la crypte, vous allez trouver un fond baptismal. Je crois que le père nous a parlé l'autre jour, il peut rajouter des choses. Et aussi, il y aura en sous-sol de la crypte du tunnel qui amène dans des silos pour conserver les grains, puisque les gens autrefois, ils ont passé de la chasse à l'agriculture, et les gens étaient agriculteurs plutôt. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'on cultivait les terres ici à Nazareth? À l'endroit où on était embouteillé à notre arrivée, c'était les plaines de Nazareth, mais malheureusement, tout est construit maintenant.
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de santé, de famille, de travail, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.
Il y a la crypte où nous irons pour voir le fameux baptistère judéo-chrétien. Alors, nous sommes devant l'église Saint Joseph. Ramzi nous a parlé de Saint-Joseph lui-même. On sort de la basilique de l'Annonciation. Vous avez vu tous les niveaux depuis le sol, c'est-à-dire la grotte où était Marie jusqu'à la dernière église que vous aviez sous les yeux, immense, l'église des nations. On l'appelle l'église des nations avec toutes les représentations de Marie. Toutes peut-être pas, mais enfin beaucoup offertes par les différentes nations. Vous avez pu admirer Notre-Dame de Chartres, mais aussi toutes les vierges offertes par les pays, la Colombie, les États-Unis et aussi le Japon. C'était de véritables perles que vous aviez sur le manteau de la Vierge. Bon. Donc il y a eu un effort considérable pour que cette église paroissiale devienne également la basilique universelle un peu de l'église des nations pour vénérer et honorer surtout Marie, la mère du Christ. Vous avez peut-être été attentif à l'église supérieure, à côté de ce qu'on appellerait la table sainte, enfin la séparation entre le chœur et puis la nef. Il y avait une plaque en bas, en latin. Évidemment, ici, c'est dans toutes les langues. Bon. Et c'est que Paul VI est venu dans ce lieu-là, 1964, en janvier. On l'a croisé ce matin au Mont-Tabor, mais ici aussi, il est venu. Ramzi nous a dit combien il préférait que cette église garde un petit caractère d'humilité. Voilà, on parlait d'humilité, d'humiliation, de Marie, enfin, Dieu qui s'est penché vers Marie. Donc, que ça garde un petit caractère d'humilité et non pas de grande richesse. Bon. Donc même si ça paraît grandiose. Mais au pied, il y avait donc une inscription en latin où, après son pèlerinage, il est écrit, après son pèlerinage en Terre Sainte, le pape, c'était au moment du concile qui a commencé en 62 et terminé en 65, mais nous sommes en janvier 64, eh bien le pape a médité devant les pères conciliaires sur Marie, mère de l'Église. Et depuis, ce titre fait partie des documents conciliaires, Marie, mère de l'Église. Et ça, j'avoue que j'aime bien parce que dans les actes des apôtres, on dit qu'après la mort, résurrection de Christ, les apôtres étaient réunis dans la salle commune, la salle haute, avec Marie, autour de Marie. Et quand l'Esprit Saint est descendu, ben, Marie se trouvait au milieu des apôtres. Marie, mère de l'Église, c'est aussi dans l'évangile de Jean, où Jésus dit à Jean, l'apôtre, donc « Fils, voici ta mère bon, ». Mère de l'Église, on pourrait dire. Bon, j'ai bien aimé cette chose-là. Revenons donc ici à Saint-Joseph. Bon, mais quand même, dans les différents niveaux que vous aviez peut-être remarqué au sol des pavements en mosaïque du 5e, 6e siècle, et pas mal de représentations, notamment des croix. Alors parmi les croix, il y en avait une qu'on appelle la croix cosmique, parce que c'est la croix qui est aujourd'hui l'emblème du scoutisme. Et voilà, c'est cette croix, les branches sont égales, et il y a quatre petites croix dans chacun des carrés dessinés par là. Voilà. Et donc on dit, bon, c'est la croix des scouts, mais arrivé ici, on dit c'est la croix des croisés. Et de fait, les croisés ont diffusé cette croix. Et ça, tout le monde sait ça. Mais quand on a fouillé ici, on a découvert que ça figurait déjà dans le pavement en mosaïque du 5e, 6e siècle. Autrement dit, cette croix est bien antérieure aux croisés. Et elle faisait partie ici de la décoration. Voilà. C'est la croix cosmique, on l'appelle. La croix cosmique, à cause des quatre points cardinaux. Mais en dessous de ce pavement en mosaïque, il y a des escaliers qui descendaient. Et bien ça desservait un baptistère. Et nous n'y avons pas accès, on n'en sait pas grand-chose, on n'en voit presque rien. Mais enfin, un baptistère. Et au même moment, ici, sous l'église de Saint-Joseph, eh bien, il y avait aussi un autre baptistère. Alors, on a parlé tout à l'heure de baptistère judéo-chrétien. Là-bas, était-ce une autre tradition chrétienne ? Ici, on la raccroche plutôt à la famille proche de Jésus, qui était proche des traditions juives, réinterprétant les traditions juives dans le sens chrétien, mais pas tout à fait, peut-être, unie avec les autres. Enfin, en tous les cas, ça reste un mystère. Mais le grand bénéfice un peu de cette rivalité, c'est que nous avons un baptistère judéo-chrétien ici en dessous. Alors, dans les baptêmes aujourd'hui, vous avez le schéma en tête. Il y a d'abord un accueil à l'extérieur de l'église, et puis on entre dans l'église pour écouter la parole de Dieu. Puis il y a le baptême avec l'eau, le feu, enfin le cierge pascal et le vêtement blanc. Le vêtement blanc, et puis on signe et on dit la prière. Voilà. Alors, à l'époque, la préparation se faisait de façon lointaine, uniquement pour les adultes. Et au moment de la préparation plus étroite du baptême, il y avait les diverses renonciations au mal qui se passaient dans des grottes, dans des endroits obscurs. Voilà, et là, c'est là qu'on renonçait à Satan, à ses œuvres, etc. Une fois, deux fois, trois fois, ça se passait la nuit. Et ensuite, on recevait une petite lampe, on en a retrouvé par dizaines des petites choses en terre cuite, avec des petites croix dessinées. Ce sont des lampes qui servaient donc à éclairer, mais aussi à éclairer les pas du nouveau baptisé pour le conduire à la deuxième étape. Donc, renonciation au mal. On recevait la lumière et puis on avançait dans les couloirs au lieu du baptême. Alors je le préfère l'expliquer maintenant, mais vous allez le voir après, même si vous allez me demander où ça, mais je serai là pour l'expliquer. Et donc c'est là que les références juives réinterprétées chrétiennement voient le jour, paraissent. C'est qu'il y a un rang de 6 marches, pas 7, mais 6. Ça représente, il y a 7 niveaux, mais ça représente la descente de Jésus. Jésus, pour venir habiter sur terre, a franchi 7 seuils pour arriver et demeurer parmi nous. Et de même, pour remonter au ciel, il a franchi de nouveau les 7 étapes. Voilà. Chrétiennement, ça sera réinterprété, par exemple, par l'échelle de certains climax, l'échelle de la perfection, c'est-à-dire comment les humains doivent aussi, donc à l'imitation de Jésus-Christ, franchir bon, le premier seuil, le deuxième, le troisième, le quatrième, pour arriver donc au ciel. Quoi, voilà. C'est une échelle mystique, reprise par un certain nombre de mystiques, comme Saint Jean de la Croix, par exemple, aussi. Et donc, vous voyez, le Christ a franchi les 7 niveaux pour rejoindre la terre, et puis les 7 niveaux pour rejoindre le ciel. Bien le baptisé fera le même chemin. Il descendra les 6 degrés, le 7e étant le niveau où il sera baptisé. Symboliquement, il franchira une petite rigole qui représente le Jourdain. Et ça rappelle toute la tradition biblique où le peuple a traversé la mer Rouge, mais pour arriver à la Terre Sainte avec Josué, il a traversé le Jourdain pour entrer dans la Terre Promise. La Terre Promise, pour lui, c'est dans le carré en dessous. Donc il est baptisé et il y a une masse sombre à droite. Une masse sombre, c'est difficile à interpréter, mais la meilleure explication que j'ai entendue, c'est que ça représente le rocher. Souvenons-nous du rocher de Moïse dans le désert, mais réinterprété par saint Paul, qui a dit, bien les Hébreux qui traversaient le désert buvaient déjà un rocher spirituel et ils buvaient déjà l'eau, la source vive qu'est le Christ lui-même. Quoi. Donc le rocher, l'eau qui sort du rocher, bien, c'est l'eau du baptême qui fait entrer dans cette vie nouvelle du Christ. Il buvait un rocher spirituel et c'était le Christ. Voilà. C'est saint Paul, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, je crois. Et donc, après le baptisé, donc une fois qu'il était baptisé, sans doute avec les 3 au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, remonter les marches, donc les degrés de sainteté ou les degrés de la vie chrétienne, et en haut, il recevait la chrismation, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Alors, j'ai oublié tous les détails, il y avait des prières qui se disaient, par exemple, dans le Nouveau Testament, on a « Éveille-toi, ô toi qui dors », par exemple. Donc, il recevait l'illumination de l'Esprit Saint, et puis, on peut supposer qu'après, il était admis parmi les chrétiens pour communier. Et c'est ainsi que les 3 sacrements que nous appelons sacrements, ça ne s'appelait pas comme cela. À l'époque, le mot grec, c'était « mysterion », qui a donné « mystère ». Et qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Alors, c'est une chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Je crois que c'est la définition la meilleure que j'ai jamais trouvée. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Eh bien, ça a donné le mot sacramentum en latin. Et un sacrement, c'est le signe visible d'un Dieu invisible, de l'amour invisible de Dieu pour chacun de nous, de la lumière invisible de Dieu pour qui éclaire nos pas, etc. Voilà. Donc, il était introduit dans le mystère chrétien par l'eau, par l'Esprit Saint et par le pain. Voilà, les 3 sacrements de l'initiation. Alors, je préférais l'expliquer maintenant parce que en bas, on ne pourra pas tous tenir à la fois, mais je resterai à côté de, voilà, pour vous montrer les degrés, le Jourdain, la pierre noire, le rocher spirituel, et puis de nouveau remonter, puis il faut imaginer la suite du baptême plus haut.
Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, sur cette terre, nous cherchons le plus précieux. Vous me montrerez, j'espère, le chemin de notre Dieu. Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense don précieux. La joie de l'Esprit du Père, Jésus homme à la fois Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, notre prière, portez-la tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire, il exaucera nos voeux. Saint Joseph, si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, artisan de paix en Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.